Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Je découvre 5 balades sur l'île Dieu, c'est le nouveau livre de l'historien Hélène Maurice Essel, paru aux éditions Geste. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Quels lieux très ou moins connus de l'île Dieu sont mis en lumière dans ce livre?
Les très moins connus de l'île Dieu, c'est peut-être des roches comme la roche Offra, qui autour de laquelle il y a une légende. La pointe des Corbeaux, dont les légendes ne sont pas toujours très connues du public. Ils ont la pierre branlante aussi, qui a une légende curieuse et qui est encore moins connue que les autres.
Ah bon? Je pensais que c'était plus connu que la roche Offra, non?
Non, pas tellement, parce qu'on n'associe pas toujours la pierre branlante avec la légende du fameux génie qui autrefois aurait inspiré le contournement de la roche pour expier les péchés du monde.
Mmh. Ouais. Quels autres lieux de l'île pouvons-nous découvrir dans ce livre?
Dans ce livre, on découvre quand même pas mal de choses. Le port de la Meule, bien sûr. On découvre la pointe du Châtelet, la pierre à Monsieur. Ensuite, il y a donc le rocher des Emporelles, la pierre qui vire 3 tours, et puis toute la pointe du Butte avec toutes non pas les légendes, mais les récits effrayants qui tournent autour des naufrages qui ont lieu sur cette pointe. Alors maintenant, à l'intérieur de l'île aussi, il y a tout de même l'église de Saint-Sauveur, qui est la première, qui est bientôt millénaire, et qu'on referme non seulement des objets de piété, mais aussi des fresques magnifiques que nous avons découvertes et qui feront l'objet tôt ou tard d'une restauration importante.
La restauration, c'est pas actuellement?
La restauration n'est pas en cours. On a simplement dégagé une partie de l'absidiole du sud. On a découvert donc une certaine quantité, une surface de fresques et qui comportent des peintures allant du XIIe au XIVe siècle au moins.
Belle découverte tout de même dans cette église.
Très belle découverte, parce que ça a donc sensibilisé les pouvoirs publics, en particulier la direction régionale des affaires culturelles, qui elle a estimé que c'était une découverte majeure pour le département pour cette année 2015. Ensuite, nous avons quand même la restauration complète de l'église qui est magnifique. L'église avait tellement souffert que toute la nef entière a été repeinte entièrement en dessin de pierre. Mm-hmm. Les clés de voûte ont été restaurées avec toutes leurs couleurs. Et puis l'autel a été refait entièrement, il a été remodelé parce qu'il était autrefois plus important peut-être, mais avec des arêtes de pierre qui nuisaient au passage des fidèles. Et puis alors, avec la collaboration de Monseigneur Rézeau, bien sûr, qui a donné toute sa lumière et sa science à l'organisation interne de l'église.
On rappelle, vous parlez de l'église de Saint-Sauveur.
Oui. Alors l'église Saint-Sauveur aussi a donc été blanchie. Je sais que certains y voient du dommage, la considèrent comme une chose curieuse, mm-hmm. mais il faut dire aussi qu'on ne pouvait pas la laisser telle qu'elle. Je suis monté moi-même plusieurs fois avec le chantier, puisque j'assiste à toutes les réunions. Eh bien, on voit en effet combien sur la pierre, le travail des intempéries depuis 1000 ans a agi énormément. La pierre était entièrement rongée. Il y avait de chaque côté du clocher en particulier des figurines qui étaient très belles à l'époque, mais il n'en reste plus qu'une seule qui est lisible. Alors tout cela justement faisait qu'il fallait protéger toute la surface de l'église. Donc il fallait lui mettre un enduit. Et un enduit, on n'avait pas lui mettre du ciment brut, ça aurait été horrible. Il fallait donc les ciments colorés. Et on s'est aperçu que l'église a toujours été blanchie. Et déjà, nous avons les premières notions en 1849. Et depuis, nous avons su qu'elle a été blanchie en 1905. Et puis, depuis, les intempéries avaient altéré la surface, si bien qu'il ne restait plus rien des peintures anciennes. Alors, on a donc décidé, un accord, c'est l'architecte en chef qui est en accord avec la commune, bien sûr, qui a décidé de lui mettre un blanc un peu cassé.
C'est vrai que ce blanc fait beaucoup parler tout de même.
Oui, mais c'est symbolique aussi, parce que ça, c'est symbolique. L'église est entourée de maisons blanches. C'est le caractère maritime qui est là. Lorsqu'on se place sur la route de Saint-Sauveur au port. On monte au Moulin Cassé et on s'aperçoit, on voit toute l'étendue de, du bourg ici. Alors, on voit l'église et puis tout autour, un petit peu comme une poule avec ses poussins. L'église représente, oui.
Hein?
Et on la voit tout au milieu et puis tout autour s'étalent les maisons comme si c'était une couvée autour. Bon, c'est amusant si vous voulez. Hein. C'est simplement un symbole. Alors, on a voulu quand même garder le caractère maritime. Et puis, bon, ben, je sais que ça se passe ailleurs parce que bien des églises sont blanches. Je me souviens à l'île de Ré avoir vu l'île de, dans l'île de Loie, c'est une fausse île, c'est une presqu'île. Enfin, dans Loie, l'église est toute blanche, entièrement blanche. Hein. Il y a d'autres endroits où j'ai vu où l'île était blanche. On avait gardé simplement sur les renforts, sur les contreforts, on avait gardé la trace de la pierre. Mais à l'île-Dieu, c'était difficile parce que la pierre était usée aussi.
Autre église à découvrir, l'église de Port-Joinville avec la mec de frégate,
voilà.
Ex-voto du XIXe siècle.
Oui, l'église de Port-Joinville est beaucoup plus récente, bien sûr, mais enfin, elle mérite quand même la visite. Il y a donc les maquettes de ces bateaux, des frégates du XIXe siècle. Ce sont des dons qui ont été faits par les fidèles, avec des noms, Saint-François, le pape Pie X. Enfin, vous avez trois noms qui sont inscrits sur chacune des
frégates.
Des frégates, voilà. Alors, mais l'église du port aussi mérite la visite. Oui, il y a la magnifique orgue, cet orgue qui est M. de Limeau, qui est splendide, avec sur son sommet deux poissons, deux barres, deux thons, pardon. Mm-hmm. Et ce qui a fait, par ironie, dénommer l'orgue à deux thons. Alors cet orgue est très beau. Vous avez aussi un magnifique tableau de l'Annonciation qui se trouve au transept sud. Et puis, vous avez aussi les stations de chemin de croix qui datent de 1905, à peu près, non, 1910, et qui sont faites par un sculpteur de Toulouse. La nef elle-même, il y a une superposition de plusieurs parties dans l'église du port. Il y a donc la nef qui est 1822. Vous avez l'entrée pareil, qui est 1840. C'est l'époque de Louis-Philippe, l'entrée, avec une magnifique, comment dirais-je, les colonnes d'orique.
Mm-hmm.
Oui. Vous avez ensuite l'autel avec les transepts. Ils sont beaucoup plus récents parce qu'autrefois, il y a eu d'abord un clocher-mur avant le clocher actuel. Et puis, ce clocher-mur a donc été surmonté d'une cloche. Et puis après, en 1840, on a donc fait le clocher actuel. Et puis, on a donc orné la façade de ce portique que vous voyez qui est très beau. Et puis, on a fait aussi la tribune en 1866. Et puis, en même temps, l'autel et les transepts n'ont été faits qu'à partir de 1885-86. À cette époque-là, on a donc dégagé toute la partie qui était murée, où il y avait un simple autel au bout de la nef, et puis on a transformé ça dans une église comme on trouve dans les églises traditionnelles, quoi, la forme de croix.
Pour rester à Port-Joinville, comment et pourquoi Port-Breton est devenu Port-Joinville ?
Alors, pour Breton, ça commençait déjà depuis les temps assez anciens, puisque au XIVe siècle, on a un écrit qui nous parle déjà du port aux Bretons.
Mm-hmm.
Ça voulait dire qu'il était fréquenté par les Bretons. Exactement comme le Pertuis breton, on n'est pas un Pertuis habité par des Bretons, mais fréquenté par les Bretons. Alors, ce nom de port breton, port aux Bretons, est devenu port breton à la suite des siècles. Et puis, il a fallu qu'au XIXe siècle, on pense à lui donner un nom qui était disparu depuis longtemps. On ne l'appelait plus que le port.
Mm-hmm.
Les gens ne disaient plus le port.
Même aujourd'hui, on dit on va au port.
Ah oui, quand on est Ilais, on ne dit jamais on va à Port-Joinville, on dit on va au port.
Complètement, oui.
Et quand on dit le port, ça ne peut être que le port Port-Joinville. Parce qu'autrement, quand c'est le port de la Meule, on dit on va à la Meule.
Exactement, ou on va au port de la Meule.
Exactement, oui. Alors, ce port qui n'avait plus de nom, eh bien, il fallut en trouver un. Et puis la municipalité s'est concertée, puis s'est dit quand même, il y a le prince de Joinville, qui est donc un des fils de Louis-Philippe, a apporté beaucoup à la modernisation du port, puisqu'on lui avait confié un petit peu la sécurité et puis l'aménagement des ports de la côte. Eh bien, il a apporté beaucoup à l'aménagement du port de Port-Joinville, si bien que en 1845, la commune a fait un vœu envers le Louis-Philippe pour lui demander s'il voulait bien qu'on donne le nom de ce port, dont le nom a été perdu depuis longtemps, qu'on lui donne le nom de son fils, Port-Joinville. Et bien, en 1846, le Louis-Philippe a donc accepté, et depuis cette époque, et bien, le port de l'Île-Dieu s'appelle Port-Joinville, qui est très joli d'ailleurs comme nom.
On l'a bien compris, beaucoup de lieux de l'Île-Dieu ont rapport avec la mer et le monde maritime. Oui. Le quai du Canada tire son nom de qui ?
Ah oui, alors le quai du Canada a reçu pas mal de noms, puisqu'il a été fait au XVIIe siècle. Ensuite, bon, on l'appelait le port de la Pélagie, en l'honneur de la châtelaine qui avait commencé, qui a présidé son érection. Et puis ensuite, il est devenu le quai de la Tour, mm-hmm. quai de la Tour au XIXe siècle, parce qu'on lui a installé un phare. Et puis à la fin du XIXe, il y a donc eu la construction des quais de Port-Joinville, parce qu'autrefois la mer venait battre le pied des maisons, et puis il fallait aussi donner un nom à ce quai. Eh bien, on a pensé lui donner le nom de l'ingénieur d'Ingler qui a été à l'origine des travaux. Et puis ensuite, eh bien, c'est devenu toujours le quai d'Ingler, et c'est produit à la guerre de 39-45, et en 44, les Canadiens sont arrivés là. Et puis, ont été les premiers à débarquer, à porter du secours à la population. Et en hommage à leur arrivée ici, à la libération, entre guillemets, de l'île, eh bien, on a appelé le quai du Canada, en souvenir de ces Canadiens.
Fait marquant aussi pour l'Île-Dieu et puis pour Port-Joinville, les différentes conserveries qui ont eu lieu sur l'Île-Dieu.
Ah oui, les conserveries, alors là, la liste s'étale depuis 1867, tout le temps, il y en a eu pas. Plusieurs, il y a eu plusieurs conserveries, la Couronne, etc. Et puis ensuite, il y a eu donc les Saupiquet, Bouvet, Amieux, Béziers et Paulet, la dernière. Et donc cinq usines, les deux premières ayant été, ayant, comment dirais-je, mis la clé sous la porte, mm-hmm. ce sont ces dernières-là, Bouvet, Saupiquet, Amieux, Béziers et Paulet, qui ont été les dernières, et la dernière à fermer, bien sûr, celle qu'on appelle la SPE maintenant, vers 1992-93, voilà.
Elles ont fermé parce qu'il y avait moins d'activité, non ?
C'est pas tellement moins d'activité, mais la production, le rapport entre le travail et puis le prix de vente mmh. n'était pas comparable à ce qu'on pouvait trouver à l'étranger. Il y avait une concurrence marocaine, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était plus rentable. Et puis le coût du transport aussi, c'était plus rentable, si bien qu'on n'a pas pu continuer, malheureusement pour nous.
Pour retourner à Saint-Sauveur, pourquoi Saint-Sauveur, cité millénaire ?
Saint-Sauveur lui-même tient son nom de l'église. C'est l'église de Saint-Sauveur qui a été faite aux environs de l'an 1000, après l'an 1000 du moins. Eh bien, autrefois, donc, il y a un premier monastère de Saint-Hilaire, et puis ensuite, après sa destruction, eh bien, on a vu arriver à la fin des années 900, un essaim de moines qui était donc formé par deux seigneurs qui avaient fait des vœux que si tout se passait bien, si il y aurait, parce qu'on pensait que à l'an 1000 ça pouvait être aussi la fin du monde, c'était un signe de désastre, il y avait des conflits un peu partout, et ils se sont dit que si tout se passait bien, après l'an 1000, eh bien ils feraient venir des constructeurs, des moines, et puis il va tirer église, chapelle, etc., monastère. Alors si bien que la fin du monde est arrivée, que rien, la fin du monde, l'an 1000 est arrivé, mmh. et la fin du monde n'ayant pas eu lieu, eh bien les deux seigneurs, Herbert et Béranger, qui étaient seigneurs de Brême, eh bien comme ils n'avaient pas de terre, eh bien ils sont allés trouver le seigneur de la Garnache, qui était possesseur de l'Île-Dieu, et c'était donc les anciens, les petits-fils des anciens seigneurs normands qui avaient donc occupé l'île à l'époque. Puis à l'époque, ils se sont dit, bon, ben écoutez, qu'est-ce que vous désirez faire ? Ben, nous désirons justement remplir notre vœu. Nous avons promis que si tout se passait bien, nous construirons des églises et chapelles et nous cherchons des terres pour pouvoir les établir. Alors ils se sont dit, ben écoutez, nos arrière-grands-pères ont fait beaucoup de tort à l'île-Dieu, nous sommes chrétiens maintenant, eh bien, nous allons vous donner la possibilité et de remplir votre vœu, et puis en même temps de protéger, de prier pour nos âmes. Alors, ils leur ont donné des terres sur l'île, et puis le droit de dîme, c'est-à-dire de percevoir des impôts pour leur subsistance. Et bien que ça a commencé comme ça, et puis ils ont commencé à construire leurs édifices religieux. Alors, c'était d'abord les moines de Saint-Martin de Tours, c'est-à-dire à Marmoutier. Marmoutier, c'est le nom et non pas de Marmoutier. Alors, les moines de Saint-Martin de Tours ont commencé à établir leur monastère, qu'ils ont appelé au nom de Saint-Étienne. Le vocable était Saint-Étienne et il se trouvait d'ailleurs sur les hauteurs aux environs de la rue du Trou-Pernet, à l'Île-Dieu, c'est-à-dire donc entre le Guerchalon village et puis la plage. Et au-dessus du marais de la Guerche. Alors ils ont établi leur monastère ici, ils ont ensuite établi la chapelle, et puis par la suite, ils ont commencé la construction d'églises qu'ils avaient donc promis dans leurs vœux. Ça a été d'abord l'église de Saint-Sauveur. Mm-hmm. L'église de Saint-Sauveur avait déjà à son emplacement une petite chapelle qui avait été faite à l'époque mérovingienne. À l'époque mérovingienne, il y a Saint-Martin de Vertou qui est venu prêcher sur la pierre Saint-Martin, après l'église Saint-Sauveur, là-bas, sur la route du sémaphore. Et Saint-Martin de Vertou, d'après la tradition, aurait posé la première pierre d'une chapelle. Cette chapelle était donc à l'emplacement de l'église actuelle de Saint-Sauveur. Et en 1954, quand on a fait les fouilles après l'incendie du clocher, on a trouvé les traces de cette chapelle qui sont actuellement sous l'église actuelle. Alors, ils ont construit cette église, et puis ensuite, qu'ils l'ont dédiée à Saint-Sauveur, c'est-à-dire le Sauveur, Dieu le Sauveur, qui a donné son nom au village ensuite. Et puis, sur la Meule, là-bas, ils ont établi cette petite chapelle qui était dédiée à la Vierge et qui était sous le vocable de Sainte-Marie. Et puis, cette chapelle donc, a franchi les siècles et puis elle est devenue ce que vous connaissez de nos jours.
Pour rester à la Meule, pouvez-vous nous parler de la Fontaine des Amoureux, qui se trouve d'ailleurs sur la route de la Meule?
Oui, la Fontaine des Amoureux, il y a une tradition qui veut que, une tradition ancienne,
c'est pour ça que je vous en parle,
qui veut que dans ce petit édicule qu'il y a dans la descente allant vers le port, eh bien, autrefois, eh bien, si on voulait, les couples qui voulaient avoir une progéniture efficace, eh bien, il fallait qu'ils aillent jeter des pièces de monnaie par derrière en arrière de la route, et ces pièces de monnaie, une fois jetées, ils faisaient un vœu, et le vœu était censé être accompli dans le courant de l'année. Alors donc, j'ai toujours aux gens qui viennent avec moi quelquefois en visite, je leur dis, écoutez, si vous avez encore des vœux à accomplir, si votre état physique le permet.
Si votre souhait est d'avoir des enfants.
Aussi, votre souhait. Parce que je m'adresse quelquefois à des gens qui n'ont plus l'âge d'avoir des enfants. Alors je dis toujours par ironie, si vous avez encore envie d'avoir des enfants, venez déposer quelques pièces de monnaie dans ce petit puits, cette petite fontaine des amoureux.
Pour rester au port de la Meule, que s'est-il passé au port de la Meule en 1920 pour qu'il soit transformé en 1946, ainsi pour devenir comme il est aujourd'hui?
Mais vous voulez parler de l'époque de 1820.
Exactement.
Bon, eh bien, 1820, selon les chroniqueurs de l'époque, eh bien, il y a eu un énorme raz-de-marée. Alors, le port de la Meule était constitué de telle façon. Il y avait deux entrées. Une entrée, l'entrée actuelle que vous connaissez, et une autre qui se trouvait près de la falaise, qu'on appelle la gueule de chien, à ces endroits-là. Eh bien, il y avait donc deux entrées, et par des très mauvais temps, de sud-ouest en particulier, quand la mer s'engouffrait, eh bien, ça causait des dégâts terribles. Et puis en 1820, il y a eu une tempête effroyable, et qui est racontée justement par ces chroniqueurs, et qui a balayé toutes les maisons qui se trouvaient sur le bord du port. Alors, vous me direz, quelle maison? Eh bien, c'est pas du tout sur le côté gauche, quand on tourne le dos à l'entrée du port, c'est sur le côté droit où il y a actuellement donc le restaurant, le café. Mm-hmm. Et à la suite du café, en remontant vers la chapelle, eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous passerez là, dans le petit chemin, vous regarderez sur votre gauche, vous voyez sur votre gauche, il y a tout un taillis, tout un des fourrés qui sont là-dedans, et on distingue en même temps les contours des maisons qui se trouvaient là. Et il y en avait quelques-unes qui se trouvaient ici, et qui ont été balayées totalement. Il y avait peut-être une autre sur l'autre côté qui fait face, mais on ne sait pas actuellement, on n'a pas d'indication. En tout cas, c'était tellement mémorable que le génie civil a fait construire en 1849 un barrage sur la deuxième entrée. Et ce barrage, on le voit toujours d'ailleurs actuellement, on l'appelle toujours le passage de la gueule de chien.
On va passer aux légendes maintenant. Vous avez effleuré tout à l'heure la pierre et la roche au froid. Oui. Quelle est la légende qui tourne autour de cette roche?
Oh, cette légende, on la trouve dans d'autres provinces peut-être, mais à l'Île-Dieu particulièrement, elle a été observée et on la rencontre depuis des siècles. Mm-hmm. Eh bien, c'est un jour un marin bossu qui fréquentait un des cafés de la Meule. Et puis qui était un beau parleur et tout ça. Et puis un beau soir, il était dans le café à boire son petit coup. Et puis l'orage éclate, un orage terrible. Ça. Oh, il n'avait pas plu encore. Il se dit, il faut absolument que je rentre tout de suite à la maison. Alors il avait bu son petit coup, il avait quand même un peu éméché. Et il franchit le Cararnot, il remonte la route en allant vers le Kerbossi. Et puis d'un seul coup, il s'arrête, puis il voit une lueur étrange sur la droite. Ben, c'est une drôle de lueur, d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas. Mm-hmm. Alors, intrigué, il monte dans le talus qui se trouvait sur sa droite. Il va se cacher derrière une roche qui était là. Puis il regarde, et puis intrigué, qu'est-ce qu'il voit? Il voit d'un seul coup la lumière, la roche qui s'enflamme, qui s'embrase, etc. Et puis tout un tas de personnages qui arrivent et qui prennent place tout autour de la roche, et qui se mettent à danser et à chanter, en chantant des chants, alors qui est tout à fait bizarre, qui était toujours, qui commençait par un jour de la semaine, mais à l'envers. Du samedi au vendredi, au jeudi, au mercredi, ou ça, et toujours, toujours le refrain, lancinant, était axé sur un des jours de la semaine. Et puis d'un seul coup, tout le monde s'arrête, il s'écarte, et puis voilà un personnage qui arrive. Ce grand personnage, mais c'était donc Lucifer, Satan lui-même, mm-hmm. qui s'assied au milieu de ses fidèles, et puis qui écoute maintenant leurs chants, ces chants qui étaient mélodieux, étaient très heureux, et tellement heureux que le marin qui était de l'autre côté, là-bas, il était lui aussi ébloui complètement, omnibilé, il était un petit peu sous l'effet d'un endormissement.
On peut dire qu'il était sous le charme de Satan.
Oui, il était sous le charme, et puis en même temps, comme si qu'il avait, comment dirais-je, anesthésié complètement. Il n'avait plus aucune force. Il ne pensait qu'à chanter lui aussi, comme les fidèles, comme les petits diablotins. Mm-hmm. Alors il se met à chanter. Alors là, il se met à hurler, à chanter très fort, si fort que Satan, il l'entend. Et puis Satan, troublé, etc., courroucé même, qu'on m'amène immédiatement cet intrus. Alors les diablotins s'en vont tout tremblant, et aussi chercher notre moine qui arrive, et puis on le plaque complètement sur la roche, et puis il attend le jugement de Satan. Satan lui prend les cheveux, relève sa tête, et dit « Maintenant, tu as troublé ma quiétude. Eh bien, si tu veux avoir un bon sort, si tu ne veux pas que tu meures à l'instant, eh bien, tu vas chanter. » Alors aussitôt, le marin, tout tremblant, se lève, et puis de sa plus belle voix, entonne le chant qu'il avait appris précédemment, il y a quelques minutes, et puis qu'il chantait avec une ferveur. Mais il chantait si bien que les moines, les petits moinillons de Satan, les diablotins, regardaient leur maître avec inquiétude pour savoir quelle attitude il allait adopter. Et puis brusquement, le visage de Satan s'éclaire, et puis il prend la tête du marin, passe sa main sur son dos et le délivre de sa bosse.
Le marin n'avait plus de bosse.
Alors le marin n'avait donc plus de bosse. Aussitôt, la cérémonie se termine, le rocher s'obscurcit Et notre marin s'en retourne vers le Kerbossi, là où était sa maison. Alors, toute la nuit, il se retourne, il ne peut pas arriver à dormir. Il peut pas avoir le sommeil. Le matin, il n'en peut plus. Il s'en va à la meule, bien, bien vite. Et puis, il va au café où il a l'habitude d'aller. Et puis, à cet endroit-là, il montre aux gens que là où c'était, il n'y a plus rien maintenant. Cette fameuse bosse, elle était disparue. Alors, il avait aussi, à côté de lui, il y avait un compère aussi qui était beaucoup moins malin, beaucoup moins finaud, et qui était bossu lui aussi. Alors là, aussitôt, écoute, mon gars, dis-moi, mon petit gars, dis-moi, où est-ce que tu as été pour que ta bosse n'existe plus, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'autre, il ne voulait pas dire, il voulait garder le secret, absolument. Mm-hmm. Et puis, à force
de persuasion,
eh bien, notre premier marin, il lui dit, bah, écoute, je vais te raconter ce qu'il faut que tu fasses, mais alors tu me promets d'être sage et de ne pas aller de travers. Et si tu exécutes ce que j'ai dit, eh bien, tu auras certainement la chance d'avoir ta bosse qui disparaîtra. Alors, il lui raconte un petit peu ce qui s'est passé, comment il fallait faire. Et puis, les jours passent, les semaines passent. Et moi aussi, puis un beau soir, voilà, on était toujours au jour du sabbat, toujours le samedi, voilà, un orage qui éclate. Alors, bon, mais aussitôt, notre deuxième bossu regarde son grand-père qui lui dit « Est-ce que je peux y aller ?» Il dit « Oui, vas-y, mais doucement, » il lui dit. « Hein, tu entends ce que je t'ai dit ?»« Ouais, ouais, t'en fais pas, oui, tu rochais, maman. » Alors, il s'en va, il franchit lui aussi le Carrarno, il remonte la route, et puis il va se poser bien avant l'heure, alors qu'on lui avait dit d'attendre que la roche éclaire. Il va se poser bien avant l'heure sur le rocher que notre premier marin avait utilisé.
Pour faire disparaître sa bosse, on rappelle.
Il attend, et puis voilà, la roche qui s'éclaire, comme d'habitude, qui s'éclaire toujours. Voilà les petits diablotins qui arrivent, qui entourent la roche, et puis ils se séparent. Voilà Satan qui arrive, qui se met au milieu d'eux, et il commence à chanter. Alors il chante, mais oui, mais notre marin, n'attendant pas, deuxième bossu, n'attendant pas du tout le moment fatidique où il fallait qu'il chante, se met déjà à hurler. Ah, alors là, ça ne va plus du tout. Satan arrête immédiatement le chant, ordonne qu'on lui amène l'individu et sans ménagement, et voilà notre deuxième marin qui arrive là. Alors là, sans ménagement aussi, on le précipite sur la roche, et puis Satan lui dit, si tu veux avoir la vie sauve, eh bien tu vas chanter. Autrement, je ne pardonnerai pas un deuxième chahut à mon encontre. Alors notre deuxième marin, eh bien, il se lève, et puis d'une voix épouvantable, c'était comme un vieux violon mal accordé, c'était horrible. Tous les diablotins se bouchaient les oreilles, ils chantaient faux, c'est terrible. Alors là, Lucifer immédiatement se lève, passe la main sur le ventre de deuxième bossu et il fait pousser une seconde bosse. Voilà donc l'histoire de La Rochefoucauld.
La Rochefoucauld par Maurice Essel, à découvrir dans votre nouveau livre. Il y a aussi d'autres légendes à découvrir, par exemple la Dame Blanche du Vieux Château.
Ah, alors ça, cette Dame Blanche m'a été racontée par plusieurs personnes. Et là, ils disaient tous vraiment un accent sincère. Oui, oui, mon petit gars, tu sais, l'histoire d'Orange. Hein, j'ai déjà vu cette forme, une bonne femme qui avait une robe blanche et puis qui avait une queue de thon qui sortait de là. Et se promenait tout sur les remparts du château. Et puis, j'avais pas du tout envie d'y aller là-bas. Hein. Alors, ça m'a toujours frappé. Hein? Et puis, il y avait une autre histoire que m'avait raconté un vieux marin qui était, on l'appelait le Grand Laurent, on l'appelait, il habitait à côté de chez moi, au Kerbermorny, et puis il avait fait 400 coups, il dit, ah mon petit gars, je sais, il a fait l'école des Mousses, moi, hein. Mais l'école des Mousses, c'est donc la maison de correction. Il a fait l'école des Mousses, hein, et puis il ne faut pas me raconter. Mais tu me crains, si de vue, eh ben, au Vichatia là-bas, eh ben, un soir, j'étais avec mes oeils, c'est gardien de moutons, il était gardien de moutons, il gagnait des sous comme ça pour le berger qu'il payait. Un soir, j'étais avec mes oeils, et puis là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit, hein? Eh bien, l'orage, un orage qui était au-dessus du château, et puis ben, les éclairs, et puis là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il voit du côté des Sabias? Toute une procession tient 12 os, comme des os de cimetière, qui étaient tout éclairés. On aurait dit une véritable procession qui s'avançait vers le château. Et puis, arrivé devant la porte, la grande porte, eh bien, à chaque fois, chaque os disparaissait, jusqu'au dernier, comme ça. Puis, il y a eu tellement eu peur qu'il dit, il rassemblait mes moutons, ses os, puis les moutons, ils braillaient de tous les côtés. Hein. Il rassemblait tous mes moutons, il suis parti là-bas, à la bergerie, et puis, il s'est revenu les soirs d'orage, il me dit.
D'autres légendes, lieux et pages d'histoire dans le livre à découvrir par Maurice Essel. 5 balades à faire sur les lieux. Merci Maurice Essel d'être venu sur Neptune FM.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Et votre livre est disponible, 5 balades à faire sur les lieux, aux éditions Geste. Merci beaucoup, à très bientôt.
Et vous le trouverez dans toutes les bonnes maisons et à un prix très très abordable.
Vous pouvez donner le prix.
4,90 €.
Par exemple, à la Maison de la Presse.
Et oui, à la Maison de la Presse, et beaucoup de photos en couleur dedans.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas avec le festival Les Givrés qui a lieu à Givran le samedi 26 septembre. On en parle plus en détail en compagnie de Jordan. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.